au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous sommes mercredi 18 février. Tout d'abord aux Jeux olympiques, le Canada qui vient de décrocher une 4e médaille d'or. C'est Steven Dubois qui rafle la première place au 500 mètres patinage de vitesse courte piste. C'est sa 5e médaille à vie. Et le Canada a aussi récolté une médaille de bronze aujourd'hui en relais 300 mètres féminin. Journée politique, très grosse journée politique. On aura l'occasion de parler avec Pierre Paquet tout à l'heure de Marois Risky, qui demeure exclu du caucus libéral, l'ex-journaliste Philippe Schnob, qui sera candidat pour le Parti québécois, Alexandre Boulris, qui pourrait quitter le NPD et se joindre à Québec solidaire, et un troisième conservateur qui se joint aux libéraux de Mark Carney. Également à l'émission de l'analyste sportif Danny Dubé, qui nous parle des difficultés financières des athlètes qui aspirent aux Jeux olympiques. Mathieu Brière sera avec nous, il est directeur général de la coop dit ma vie. Il se dit inquiet pour les gens vulnérables qui auront à vivre cette transition vers le privé. Sébastien Marcel aussi avec nous, maire de Saint-Roch-de-Lachigan. Il a trouvé une façon, lui, de sauver de l'argent sur les achats de la municipalité. Mais tout d'abord, la municipalité de Saint-Michel-des-Saints qui se retrouve aux prises avec un grand problème, un grave problème d'eau potable qui risque de nuire à son développement futur. Pierre Jubinville en a discuté il y a quelques minutes avec le nouveau maire, Mario Venn.
Alors, Mario Venn, vous êtes le maire de Saint-Michel-des-Saints et Saint-Michel se retrouve dans l'obligation de suspendre temporairement tout nouveau projet résidentiel. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi?
Écoutez, la suite d'un rapport qu'on a fait, qu'on a demandé par une firme expert, XP, on a eu le résultat qui nous amène à comprendre que la nappe phréatique présentement peut pas, nos deux puits, pas la nappe, mais les deux puits qu'on a présentement, peuvent pas fournir les développements qu'on voulait faire. On parlait quand même de 300 à 400 portes.
Et vous constatez ça aujourd'hui ou c'était déjà dans l'air depuis plusieurs années?
Non, c'était pas dans l'air depuis quelques années. Dans l'air depuis quelques années, il y a eu des travaux qui ont été amortis. Parce qu'on a de l'eau, on en avait en masse. Là. Présentement, on en a en masse, la pression était bonne. Sauf que pour avoir le droit à un forage de nouveaux puits, il faut rééquilibrer l'eau que les citoyens consomment. Et on était hors normes. Donc, on ne pouvait pas creuser d'autres puits avant de se rendre dans les normes du gouvernement là, pour le nombre de litres par personne. On a passé de 1000 litres depuis 6 ans à 350 litres par personne, ce qui est la normale là, pour chaque citoyen.
Donc, la consommation est déjà restreinte?
Là, avec la... Non, mais c'est correct. À 350, c'est la norme établie par le gouvernement. Avant ça, on n'avait pas le droit de faire des forages. On n'avait pas le droit. Il fallait corriger le surplus qu'on consommait. Comprenez qu'à 1000 litres par personne, on peut pas... On pouvait pas faire d'autres puits. Ils nous ont dit de faire nos devoirs parce que ça veut dire qu'il y avait des fuites dans les systèmes, des vieux systèmes d'Acazur. Il y avait des fuites, on perdait de l'eau. Ils ont dit avant de pouvoir forer d'autres puits, il va falloir que vous corrigiez ces fuites-là. Ainsi qu'on a mis des compteurs d'eau dans les commerces. On a été chercher, on a fait notre devoir. Là, disons, ils ont fait le devoir, les ceux avant moi aussi, parce que moi, je suis nouveau, mais ils ont fait le devoir. Là, on est à jour, sauf que là, on a fait faire un examen pour pouvoir faire ouvrir nos promoteurs pour pouvoir faire les logements qu'on voulait faire. Et ça nous apporte à ce qu'on n'a pas assez d'eau dans nos deux puits pour faire nos projets domiciliers.
Et ça va prendre combien de temps à trouver une solution pour ça?
Écoutez, j'explore beaucoup d'avenues. Là. Je m'informe à beaucoup de confrères qui... Il y a des puits à surface, il y a des puits dans l'eau. Il n'y a pas personne qui dit la même chose. Tant que j'allais pas les... Mais on parle de quand même, ça peut être 4-5 ans facilement. Là.
Et comment on peut en arriver, M. Venn, à une telle situation aujourd'hui en 2026?
Je peux pas concevoir que ça peut prendre autant de temps que ça pour avoir une autorisation d'avoir un puits, là, pour desservir une population où ce que le développement... Et surtout que... On a été la mine de Saint-Michel-des-Saints a été proclamée projet national. Mais là, on pourra pas suivre le projet national si ça continue comme ça. Il faudrait qu'il y ait des développements d'un autre côté qui soient plus rapides. Parce qu'on parle d'un forage, il faut laisser l'eau couler 6 mois, il faut attendre 1 an, il faut les délais sont extrêmement longs. Il faudrait que ça serait plus court. Là.
Et vous êtes entouré de lacs.
On est en, le Saint-Michel-des-Saints est pratiquement une île. Là. La rivière fait tout le tour du village. Et on était déjà desservi anciennement par le lac Enlène, qui est plus haut. Là. On avait de l'eau à profusion. Ils ont coupé ça, puis ils ont perdu le droit acquis de s'approvisionner par ça. Puis avant qu'on puisse s'approvisionner par un puits de surface, il faut qu'on prouve qu'on n'a pas des puits artésiens ou des puits qui sont capables de fournir. Fait que là, il faut faire des démonstrations, on fait des forages, et puis là, si jamais il n'y a pas assez d'eau dans nos puits, parce qu'on est dans la même nappe phréatique, bien là, à ce moment-là, on va pouvoir faire la demande d'avoir de l'eau de surface, qui est complètement un autre système de neutralisation de l'eau, de filtration.
Entre-temps, M. Venn, il va se passer quoi pour les citoyens? Est-ce qu'ils sont dans l'obligation de restreindre leur consommation? Est-ce qu'il y a des baisses de pression, des choses comme ça?
Non. Tout est bien correct. Il n'y a pas de danger pour les citoyens. Ce qu'on a là, il n'y a pas de danger que ça bouge. On a fait le règlement. On a fait un règlement pour pas qu'il y ait justement des ajouts parce que on aurait été obligé de les faire s'il n'y aurait pas eu cette réglementation-là. On allait être obligé de les ajouter. Mais là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas personne qui va manquer d'eau à Saint-Michel. Il n'y a pas de danger. S'il y a un feu, on est correct. Sauf que ça va nous prendre de l'eau parce qu'on ne peut pas se développer. Là.
Et ça remet en question. Oui, c'est ça. Ça remet en question aussi le projet de mine.
Bien, c'est sûr que ça remet en question le projet de mine. Ça va nous prendre du logement pour loger tout ce beau monde-là. Là. Et puis, on avait un projet d'une autre école. On avait, parce que s'il vient d'autres mondes, ça prend une plus grande école. Non, c'est, disons que je m'attendais pas à ça dans mon mandat, pour être honnête avec vous. Là, je me fais essayer pas pire.
Oui, votre mandat commence difficilement.
Oui, il arrivait qu'une belle nouvelle, puis il m'en envoie une pas belle tout de suite après. Mais comme je vous disais, j'ai pas le choix. Il faut qu'on avance dans ce dossier-là pour les futures générations aussi. Là, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on avance. Même que ça prendrait 5 ans, il va falloir que. Mais j'aimerais mieux que ça ne prenne pas 5 ans, ça va dépendre.
Il y a des procédures en cours qui m'empêchent.
Voilà. Donc, on écoutait Mario Venn, c'est le maire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints. Les ambitions municipales, les ambitions de cette municipalité, ben, sont freinées là par le problème de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez d'eau pour les ambitions de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints. Dans les prochaines minutes, Sébastien Marcille, le maire de Saint-Roch-de-la-Chigan.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Les matchs du Tricolore, c'est à l'échappée que ça se passe. Chaque soir de match, choisis ton joueur favori et s'il marque un but, tu mérites un shot gratuit. Lors d'un match en semaine, on prolonge notre 4 à 7 jusqu'à 20 heures. Les jeudis, c'est la soirée hockey avec DJ, tirage d'un chandail du CH présenté par la BAT et pique assiette gourmand. Rate pas ça. Réservation fortement suggérée au 450-394-1658.
Votre Saint-Valentin s'est pas passé comme prévu?
Chérie, je te quitte, chérie. Je suis enceinte.
Chérie, ma mère vient habiter avec nous.
Coucou, mon gendre.
Vous aurez besoin de...
Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel.
Et commercial.
C'est beau, l'amour. Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Dans la Naudière, on prend le temps. Le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
CFNG. La Naudière PM. Affaires municipales.
16h15, Saint-Roch-la-Chigan qui s'inspire des villes de Laval et de Longueuil qui ont choisi de s'unir là, pour réaliser des achats de biens à moindre coût. C'est une très bonne idée. On propose du côté de Saint-Roch-la-Chigan aux villes voisines de la MRC de Montcalm de faire pareil comme pour Laval et Longueuil. François Morin en parle avec le maire Sébastien Marcil.
Sébastien Marcil, quand même une bonne idée là, de regrouper les achats. Ça se faisait ailleurs. La grande question existentielle que j'ai, pourquoi ça se faisait pas ici?
Ben ça là, M. Morin, vous seriez surpris de savoir à quel point c'est un vieux réflexe là. Puis le vieux réflexe, je pense pas que c'est de mauvaise foi. Je pense pas qu'il y a des mauvaises raisons derrière ça là. Je pense pas que c'est inné. Mais les municipalités ont toujours eu l'habitude de dresser elles-mêmes leurs contrats, de faire leurs appels d'offres, de travailler pour elles-mêmes. Puis on se rend compte au fil des années, puis à la complexité des contrats puis des appels d'offres aujourd'hui qui doivent être menés par les municipalités, les administrations publiques, puis à la quantité de municipalités aussi qu'il y a à la grandeur du Québec, il y en a plus de 1000, à un moment donné, on fait tous des appels d'offres pour du lignage. On fait tous des appels d'offres annuels pour des ponceaux, la réfection de route, des réfections de trottoirs. Donc, ce sont tous des besoins qu'on a chacune d'entre nous. Et donc, pourquoi ne pas travailler ensemble, tout simplement? C'est une question bête et extrêmement simple, mais qui, pour toutes sortes de raisons, n'étaient pas mises de l'avant nécessairement.
La résolution a été adoptée en début de semaine. Est-ce que vous avez déjà, à tout le moins, eu des accusés-réceptions de vos collègues?
Je vous confirme, je ne suis pas sûr qu'on l'a encore envoyé au moment où on se parle, au moment d'écrire ces lignes, mais on l'a voté lundi. Mais ça va être acheminé très, très prochainement à l'ensemble des municipalités voisines pour, oui, témoigner officiellement et institutionnellement de notre volonté de travailler ensemble. Je pense que devant la hausse des coûts des infrastructures, là, tu sais, les citoyens, les familles qui nous écoutent le savent, là, tout explose en termes de coûts là, depuis la pandémie. C'est la même chose pour les contrats, là, les différents contrats municipaux. Puis je pense que les citoyens méritent qu'on tasse notre égo de côté des fois, là, puis qu'on travaille ensemble pour diminuer des coûts. Imaginez-vous si moi j'ai 3 ponceaux à faire, la municipalité voisine en a 4, ben à 7, on est capable de donner un contrat beaucoup, beaucoup plus intéressant pour des firmes, des entreprises, des entrepreneurs qui, eux, ben, garnissent mieux leur contrat de travail, puis ensuite de ça, ben, pourraient diminuer les coûts de façon globale.
Parce qu'il y a des économies d'échelle à réaliser aussi, là.
Ben exactement. Ben c'est exactement ce que je mentionne, c'est que les économies d'échelle, on les connaît là. Ça c'est un principe de base en économie. Toutes les entreprises qui offrent du volume, qui font du volume, qui sont capables d'en offrir, ben généralement le coût de revient est moindre pour l'acheteur. Donc c'est la même chose pour les municipalités. Donc à fort volume, en augmentant le volume, ben on est capable, je pense, d'offrir, on serait capable, on est convaincu d'offrir des projets d'infrastructure à moindre coût. Puis c'est pas sorcier. Autant ça peut paraître simple et bête, mais Longueuil et Laval, l'automne dernier, sont sortis pour annoncer qu'ils allaient le faire. Puis c'était une petite révolution dans le milieu municipal. Ça a fait comme un coup de tonnerre. Puis on s'est tous regardé, tout le monde, on s'est dit, mais c'est donc une bonne idée. C'est pourquoi qu'on y avait pas pensé avant. Fait que vous voyez, c'est le genre de réflexe qui, pour toutes sortes de mauvaises raisons, ben, n'ont pas été mis de l'avant dans les dernières années. Puis que je pense que les citoyens s'attendent à ce qu'on fasse ça.
Je vais faire un petit peu l'avocat du diable. C'est pas évident que les travaux se réalisent partout en même temps. Il y a peut-être des municipalités qui voudront pas faire d'achat justement parce qu'ils ont pas besoin.
Ben là, pour ce qui est des besoins, évidemment, c'est pas obligatoire. Nous, c'est toujours sur une base volontaire, dans la mesure de la collaboration. Mais je vous donne l'exemple, par exemple, des ponceaux, là, des travaux de ponceaux. Nous, on a 3 à 4 ponceaux à refaire cette année à Saint-Roch-de-Chigan. Oui, il faut les refaire. Ben, est-ce qu'il y a une urgence nationale pour les refaire en mai ou en juin ou en juillet? Moi, sur le fond, comme élu, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit fait cette année. Après ça, le mode d'opération, puis l'ordonnancement de tout ça, si on est capable d'avoir des ponceaux beaucoup moins chers en finale, puis qu'ils soient réalisés cette année, moi, les objectifs sont atteints. Puis je pense que pour le citoyen aussi, on fait une pierre de vie.
Donc, idéalement, parce qu'évidemment, là, il y a rien qui presse vraiment dans la vie, mais idéalement, il faudrait qu'il y ait des réponses quand même assez rapidement, parce qu'il y a des travaux qui vont s'en venir un peu partout. Ça a été budgété là dans les municipalités.
Oui, exactement. C'est la saison des appels d'offres. Au moment même d'écrire ces lignes-là, c'est la saison des appels d'offres. Puis, tu sais, dans tous les cas, M. Morin, à l'impossible, il l'est tenu. Si tant est qu'il y a des partenariats qui peuvent pas être réalisés cette année, mais qu'on déporte l'année prochaine. Moi, je suis tout ouvert à ça. Moi, je suis un gars d'objectifs, je suis un gars de résultats. Donc, au final, c'est les résultats qui comptent. Si on n'est pas capable cette année, ben, tassons le moyen, puis le moyen, on le déploiera l'année prochaine. Le résultat importe, puis au final, bon, on sera en mesure de voir puis d'apprécier après ça le résultat.
Bon, c'est Sébastien Mercier qu'on écoutait, le maire de Saint-Roch de Lachigan, qui s'inspire des villes de Laval et de Longueuil, là, qui ont choisi de s'unir pour réaliser des achats à bien moindre coût. Il veut faire ça là, avec les autres municipalités de la MRC de Montcalm. Il est 16h20, un mot de circulation pour vous parler de la 25 Sud à la hauteur du boulevard des Mille-Îles. Donc, en arrivant sur Laval, on vient de nous signaler un accident. Il y a une seule voie d'ouverte. Là, ça bouchonne à partir de l'île Saint-Jean.
Lanaudière PM, communautaire.
La coopérative en soutien à domicile de la MRC de l'Assomption et la coopérative d'aide à domicile d'Imavi qui se disent là, inquiètes de la durée de la transition vers le privé. Là, on parle de gens très vulnérables qui risquent, selon le directeur général de la coop d'Imavi, Mathieu Brière, d'être très affectés. Et François Morin lui a parlé.
On apprenait la semaine dernière que le CIS de la Nadir avait accordé au secteur privé les services de soins à domicile qui étaient pourtant prodigué depuis des années par deux coops. Et évidemment, on peut pas revenir en arrière. Par contre, on a besoin d'explications là davantage. C'est pas, ça semble être juste une question de coût, malheureusement.
Oui, écoutez, on a eu l'occasion, là, suite à différentes sorties publiques qui ont été faites, d'attirer l'attention du PDG du CIS de la Nondière. On l'a rencontré pas plus tard que lundi cette semaine. Et dans la discussion, là, on essaie de faire ressortir et de comprendre la décision, de faire ressortir les enjeux en fait qu'il y avait de notre côté et de comprendre la décision du CIS de la Nondière. On nous a mentionné durant l'entrevue et la rencontre qu'il y avait une ouverture à essayer de trouver des solutions pour que nos usagers ne subissent pas un changement trop drastique. On est un peu tombé en bas de notre chaise puisque moins de 24 heures après la rencontre, on nous a confirmé que le délai initial de transition était 100% le même et on a senti, là, suite à la conclusion de la rencontre, c'est d'ailleurs les derniers arguments qui ont été apportés par l'établissement de santé, que c'était strictement un enjeu financier, là, le changement de prestataire.
Et de votre côté, on demeure inquiet parce que la clientèle à qui on s'adresse, c'est quand même très, très vulnérable.
Certainement. Écoutez, la première entrevue qu'on a fait avec vous, on commençait là, à informer notre clientèle, mais depuis, là, on a reçu des témoignages. Les gens appellent, ils sont en larmes, ils sont inquiets et ils nous informent que les gens qu'ils ont à leur charge vont refuser directement les services. Là, je vous cacherai pas qu'on communique beaucoup plus avec les proches aidants que la clientèle elle-même. Puis les proches aidants sont très inquiets de la suite des choses. On a peur qu'il y ait des bris de service, on a peur que la main-d'œuvre ne soit pas qualifiée, mais on a surtout peur de l'impact du bris du lien de confiance qui a été créé avec le temps. Là. Il y a des gens qui reçoivent des services depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans même dans certains cas, et malheureusement, la maladie a fait son travail avec le temps, donc on a une clientèle qui des fois a des atteintes cognitives très avancées et que la perspective de changer de prestataire de service, de briser le lien qui est établi, l'impact se mesure même pas, là.
Le service des communications, en fait, la direction du CIS, par le biais de son service des communications, de sa direction des communications, m'a pourtant indiqué par écrit que tout serait mis en œuvre pour éviter, justement, des traumatismes auprès de la clientèle et que les critères de qualité exigés vont être respectés là, par le nouveau prestataire des services.
Écoutez, on a vu la communication de l'établissement de santé. On se doute pas qu'il y a une volonté initiale là, qui est positive. Là. Je ne crois pas que l'établissement de santé cherche à faire du tort aux usagers. Par contre, quand on regarde la situation froidement, c'est d'une évidence que les gens qui ont remporté les contrats d'appel d'offres ne peuvent pas avoir la main-d'œuvre nécessaire pour reprendre dans un délai aussi court que 8 semaines l'entièreté là, de la clientèle. Donc, outre l'enjeu de sécurité puis le lien qu'on vient tout juste de discuter, là, on ne croit pas que c'est réaliste de penser qu'ils sont en mesure de libérer plus de 100 employés dans un délai de 8 semaines. Vous êtes probablement familier avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a dans le milieu de la santé depuis des années. Tout le monde cherche la main-d'œuvre à gauche et à droite. Donc, pour nous, ce n'est pas une alternative qui est raisonnable. On ne croit pas que c'est réaliste. Et malheureusement, on a entendu à plusieurs reprises, parce qu'on a des avec différents intervenants de l'établissement de santé. Puis ce qu'on se fait dire, c'est que dans le pire des cas, une fois que notre main-d'œuvre n'aura plus là, de travail, ils espèrent que ces gens-là renoncent à leurs conditions de travail actuelles pour se replacer dans les différentes agences.
Donc, ça veut dire que malheureusement, ils pourraient peut-être tenter de recruter du personnel au sein de vos coops, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de les payer.
Exactement. Donc, on parle d'un recul salarial qui est significatif, alors que le gouvernement, dans les dernières années, a mis de l'avant là, l'importance de la profession, nous a aidé à certains moments pour créer des augmentations de salaire, des augmentations de conditions. Donc, si jamais j'ai une main-d'œuvre qui décide de quitter vers l'agence privée, ben ils vont devoir renoncer là à plusieurs dollars de l'heure, à des semaines de vacances, des avantages sociaux, des conditions qu'on a travaillées en collaboration avec le ministère de la Santé, entre autres, là, dans les dernières années, pour être sûr de valoriser cette profession-là. Puis là, c'est un recul de dizaines d'années qui va se passer du jour au lendemain si nos aides à domicile doivent se retrouver dans les agences. Là.
En terminant, à court terme, qu'est-ce qui est possible de faire?
Ben, ce qu'on demande, en fait, c'est d'acheter du temps. Ce qu'on souhaite, c'est que l'établissement de santé allonge le délai de transition. Il n'y a aucun enjeu légal qui les force à faire une transition aussi rapide. On avait déjà demandé par le passé une transition qui était allée sur plusieurs mois, allant jusqu'à 2 ans. On ne comprend pas l'urgence de faire cette transition-là en seulement 8 semaines, alors qu'il y aurait possibilité d'aller voir comment ça se passe de l'autre côté, de faire une transition délicate et d'évaluer là les usagers et leurs besoins pour voir qui peut réellement être transféré. Parce que c'est d'une évidence qu'il y en a plusieurs qui ne pourront pas là, survivre à cette transition-là.
C'est François Morin qui s'entretenait avec le directeur général de la coop d'Imavi, Mathieu Brière. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ben, tout d'abord, on rappelle, si vous partez de Trois-Rivières, là, sachez que la 40 Ouest est complètement fermée à la hauteur de Yamachiche et de ça depuis ce midi en raison d'une collision entre une voiture et un camion. 40, cette fois, en direction Est pour Charles de Gaulle depuis Montréal. C'est dense à partir de Marien et ça jusqu'en Henri-Bourassa. Pour la suite, ça va bien. On franchit aisément la rivière des Prairies, secteur Repentigny. Oui, 40, direction Ouest, ça se passe bien. Pont-le-Gardeur, accès facile, autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. La 25 Nord, c'est dense depuis le boulevard Lévesque en arrivant sur Laval et ce, jusqu'à l'approche du boulevard des Mille-Îles. Pour la suite des choses, ça va bien. Secteur de l'Île-Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche. Par contre, 25, direction sud, une seule voie d'ouverte. Là, ça refoule à partir du boulevard des Seigneurs et ce, jusqu'à la hauteur du boulevard des Mille-Îles. Il y a eu accident un peu plus tôt, là, donc une seule voie d'ouverte en direction sud. Pont Sophie-Masson, ça va bien dans les deux directions. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Un petit peu dense en direction est à l'approche de la montée des Pionniers. Les nouvelles dans un instant.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt, dépanneur Voisin Joliette et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonissoir Shell, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonissoir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette Nissan est là pour vous. Pendant l'événement, maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse-de-Roc à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
C'est le moment de célébrer en grand à la cabane à sucre Alcide Parent. Pour lancer la saison du temps des sucres, une soirée exceptionnelle vous attend le 28 février avec le groupe festif Les Campagnards. Formule soupe et spectacle, 60 $. Spectacle seulement, 37 $. Un bon repas, une ambiance chaleureuse et un spectacle entraînant pour une soirée mémorable. Réservez dès maintenant au 450-756-2878 sur la page Facebook et aussi possible sur le site Web. Réservez votre place dès maintenant. On vous attend en grand nombre à la cabane à sucre Alcide Parent.
J'ai un cappuccino pour Caroline.
Oui, c'est moi, Caroline. Hein? Vous l'avez écrit correct? 1K2L2N. Malade. Je vais te prendre un 649.
Prochain tirage, 32 millions.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. SonXPlusJoliette.com.
L'actualité de ce mercredi 18 février en manchette. Saint-Michel-des-Saints pourrait manquer d'eau pour ses projets futurs. Beaucoup de mouvements politiques, dont le départ possible d'Alexandre Boulris du NPD. Et une histoire de coupe de cheveux qui fait jaser. Pierre Jubinville, tout d'abord, à Saint-Michel-des-Saints, on risque de manquer d'eau potable.
Oui, et ça risque de compromettre le développement de la municipalité, car ça rapporte une firme d'ingénierie qui conclut qu'il est impossible actuellement de construire de futures habitations ou commerces à cause, justement, d'une alimentation limitée en eau potable. Le maire Mario Venn fait remarquer que des promoteurs devaient construire 400 nouvelles portes pour accueillir les gens qui travailleront pour la mine Nouveau Monde Graphite. Mais ce projet de logement est suspendu.
Je ne peux pas concevoir que ça peut prendre autant de temps que ça pour avoir une autorisation d'avoir un puits là, pour desservir une population où que le développement, et surtout qu'on a été la mine de Saint-Michel-des-Saints a été proclamée projet national. Mais là, on ne pourra pas suivre le projet national si ça continue comme ça. Il faudrait qu'il y ait des développements d'un autre côté, que ça soit plus rapide.
Pendant ce temps, le maire assure que les citoyens actuels ne manqueront pas d'eau.
Tout est bien correct. Il n'y a pas de danger pour les citoyens. Ce qu'on a là, il n'y a pas de danger que ça bouge. On a fait le règlement. On a fait un règlement pour pas qu'il y ait justement des ajouts parce qu'on aurait été obligé de les faire s'il n'y aurait pas eu cette réglementation-là. On allait être obligé de les ajouter. Mais là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas personne qui va manquer d'eau à Saint-Michel. Il n'y a pas de danger. S'il y a un feu, on est correct. Sauf que ça va nous prendre de l'eau parce qu'on ne peut pas se développer.
C'est une politique provinciale maintenant, Marois Risky, qui ne sera pas réintégrée au sein du caucus libéral.
On sait qu'elle siège, la députée de Saint-Laurent, comme indépendante depuis qu'elle a été expulsée du caucus en décembre par l'ancien chef Pablo Rodriguez. Le nouveau chef, Charles Milliard, a expliqué ainsi sa décision.
Il y a des procédures en cours qui m'empêchent d'avoir toute l'information. Et les Québécois, apparemment que c'est pas tous les Québécois qui me connaissent, donc les Québécois vont apprendre à me connaître, vont apprendre à connaître quelqu'un qui est rigoureux, qui suit une démarche et qui essaie d'être le plus juste et le plus transparent possible.
Ouais, beaucoup d'actualités politiques aujourd'hui. Alexandre Boulris, d'ailleurs, qui pourrait changer de parti, mais au Québec, du fédéral au provincial.
Du fédéral à Québec solidaire pour les élections d'octobre. Règlement interne du parti indique que, cependant, qu'en vue des prochaines élections, les circonscriptions déjà détenues par le parti doivent présenter uniquement des candidatures féminines ou encore non-binaires. QS pourrait faire une exception. A interrogé à savoir si le PQ serait prêt à l'accueillir, la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcœur, a rejeté cette possibilité.
Là où on peut se prononcer, c'est qu'il a souvent eu des frondes envers le mouvement indépendantiste. Et il a dit lui-même à plusieurs reprises ne pas être indépendantiste. J'ai retrouvé une citation de lui dans la presse, là, je pense, puis il l'avait dit sur ses réseaux sociaux également. Donc là, il veut s'en aller dans un parti qui se dit, en tout cas, indépendantiste. Donc, non seulement M. Boulris n'a pas le bon sexe, mais il n'est pas non plus indépendantiste.
Et maintenant, il y a Philippe Schnob qui devient candidat pour le Parti québécois.
Justement, il vient d'être recruté. C'était l'ancien président de la STM et aussi ancien journaliste à Radio-Canada. Il tentera d'être candidat dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Il se dit souverainiste convaincu. Il croit que le momentum est bon pour tenir un référendum.
Si on veut que le transport collectif soit attractif, il faut d'abord le développer pour qu'il soit disponible partout. Il faut juste aller du côté de l'est de l'île pour voir que le service doit être amélioré. Mais il faut aussi penser à l'entretien des infrastructures parce que c'est beau d'avoir un métro, mais s'il est en panne ou s'il ne roule pas parce qu'on l'a pas entretenu. Alors, il faut revoir l'ensemble des modes de financement, je crois, pour pouvoir être en mesure d'atteindre ces objectifs-là.
Justement, cet objectif fait partie de ses priorités, financer davantage le transport en commun.
Bon, bien, un autre conservateur qui fait le saut chez les libéraux fédéraux.
Le show aussi.
Oui.
Matt Genereux, qui se joint aux libéraux de Mark Carney, c'est le troisième député conservateur à se joindre aux libéraux au cours des derniers mois, ce qui les amène à 3 sièges de la majorité. On va écouter Mark Carney.
Il est vice-président de l'Association parlementaire Canada-Royaume-Uni. Il est le fondateur de l'Association parlementaire Canada-Lasienne. Et beaucoup de liens avec d'autres parlementariens en Asie, en Europe, avec l'OTAN, par exemple.
Et finalement, une coupe de cheveux là qui crée la controverse.
Oui, c'est le cas de le dire. Le salon de coiffure condamné à 500 $ à une amende à une personne non binaire qui reçoit de nouveaux appuis et envisage de porter la cause en appel. Le tribunal des droits de la personne a conclu que Station 10 à Longueuil a discriminé dans un formulaire en ligne de prise de rendez-vous en offrant uniquement les options hommes et femmes. Le copropriétaire du salon, André Dagenet, souligne que dans toute cette affaire, il n'y a jamais eu de refus de couper les cheveux de la personne. Il qualifie l'affaire d'assez démesurée.
Ma boîte de courriel déborde. J'ai plein de monde qui dit, si vous partez un GoFundMe ou whatever, des gens nous envoient de l'argent par Interac. Puis là, j'ai des coiffeurs qui m'écrivent disant, on est derrière, parce qu'eux autres aussi, ils veulent pas être pris là-dedans, par la bande, là. Donc, j'ai des clients, j'ai des coiffeurs, j'ai toutes sortes de monde qui nous écrivent disant, lâchez pas, allez en appel.
Je crois vraiment, Pierre, là, qu'il y a des gens qui cherchent à couper les cheveux en quatre. 16h37. Merci Pierre Jubinville. Salut.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Sport.
L'ex-entraîneur sportif et maintenant analyste, Danny Dubé, était conférencier ce matin au matinée lanaudoise. Il a entretenu l'auditoire sur l'importance là, de créer une atmosphère gagnante en entreprise. Et Michel Arnois l'a d'ailleurs rencontré rapidement. La conversation a dérivé là, sur les difficultés des athlètes olympiques là, qui veulent participer aux Jeux, les difficultés financières particulièrement.
On a bien vu dans votre conférence aujourd'hui toute la notion d'importance, l'importance de l'être humain, l'importance d'y trouver une place qui est la sienne. Est-ce que c'est ça la clé de l'entrepreneurship, à votre avis?
Ben oui, c'est la matière première, ça demeure l'humain. Alors, très souvent, on est dans les systèmes, on est dans les évaluations, on est dans la paperasse, et on perd de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que les gens qui sont à bord, ils trouvent leur compte. Et trouver leur compte, c'est pas juste un salaire, c'est une reconnaissance, c'est un sentiment d'appartenir à un groupe, à quelque chose qui est plus important que nous. Souvent, ben, l'entreprise est tellement dans un tourbillon qu'on oublie de porter attention à ces détails-là. Alors moi, je me fais un devoir dans la conférence de ramener les gens à l'essentiel.
Je m'en voudrais de pas profiter d'un sportif comme vous, d'un analyste du sport, pour ne pas vous parler là justement des Olympiens présentement, des Olympiens canadiens. Les médias ont beaucoup comparé ce que ces gens-là gagnaient par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus généreux. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier-là?
Bien, nous, c'est sûr qu'on est sous-financé dans le sport. Les factures sont toujours refilées aux commanditaires, aux familles. À un moment donné, c'est sûr que lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs, on voit qu'il y a des préoccupations autres dans d'autres pays et où le sport prend plus de place. Alors oui,
il y en a même qui fournissent des logements, de nourriture.
Oui, on est complètement ailleurs sur tout ça. Mais tu sais, il faut regarder l'ensemble de la dynamique. Moi, je trouve qu'on commence à financer le sport trop tard. Donc, on commence à financer l'élite au lieu de financer déjà à la base. Donc, plus on va avoir une génération sportive, plus et on va développer une société en santé. Ça, c'est
on devrait commencer par l'incitatif, inciter les jeunes au sport.
Les infrastructures, l'accessibilité. Donc, l'infrastructure, donc d'avoir des environnements, il y a Arena pour en ce qui me concerne, mais autres. Donc, les infrastructures, ça, c'est important. Ensuite, une fois qu'on a parlé des infrastructures, c'est l'accessibilité, ça coûte pas trop cher. Donc, ça prend du financement qui vient soit des municipalités ou conjointement des municipalités et des instances gouvernementales. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'accessibilité aussi à l'équipement. Parce que ça coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus spécialisé maintenant. Donc, on devrait, par exemple, pour les gardiens de but, et si on regarde là, sur un échantillon de 25 ans, on a passé de 18 gardiens de but dans la Ligue nationale, qui proviennent du Québec, à 6. Donc, pourquoi? Ben parce que ceux qui jouent à la position de gardien de but, c'est des jeunes, pour la plupart, que leurs parents ont les sous. Donc, est-ce qu'on a les meilleurs athlètes? Des fois oui, des fois non. Parce que le facteur financier prend trop de place. Alors, évidemment, le gouvernement ne peut pas tout faire, là. Mais
le sous-financement explique les résultats qu'on a présentement, à votre avis?
Ben, en partie, c'est sûr que plus tu vas avoir d'athlètes, plus tu vas avoir de financement, plus tu vas avoir d'athlètes. Plus tu as d'athlètes, plus ton bassin est solide. Mais de façon empirique, c'est un meilleur bassin, ça monte vers le haut. Nous, on a des structures basées sur le bénévolat, beaucoup. Dans les autres pays, le bénévolat n'enseigne pas. Le bénévolat, il ne fait pas d'enseignement. Le bénévolat, il s'occupe, il est impliqué, mais il y a des entraîneurs qui sont professionnels, qui sont payés. Nous, on n'a pas ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs éléments, mais à la base, c'est le financement pour être orienté sur le jeune et pas penser que parce qu'on lui donne une opportunité de sport, que ça va devenir un Olympien. Regardez que cette personne-là va devenir une meilleure personne pour la société, meilleur contributeur, contributrice, en santé. Donc, il y a un paquet de facteurs qui viennent avec ça. Là. Je ne veux pas être discriminatoire, mais c'est tout ça. Le sport, c'est une voie vers une société plus en santé.
En terminant, si je veux revenir à votre conférence, le meilleur conseil, le plus important conseil que vous donnez à des entrepreneurs, c'est?
Restez connecté sur vos gens. Restez connectés sur le plancher. Souvent, les gestionnaires s'éloignent de l'essentiel. Donc, restez connectés sur ce qui compte, c'est-à-dire votre personnel.
Michel Arnoy qui a rencontré l'analyste sportif Danny Dubé qui était conférencier au Matinée Lanaudoise aujourd'hui. Dans un instant, Pierre Paquette.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Cet hiver, vivez pleinement le grand air à la pourvoirie Auberge La Barrière à Saint-Émilie. Découvrez le village de pêche sur glace avec 25 cabanes chauffées et aménagées pour votre confort. Amusez-vous en famille avec les glissades, la mini-ferme et partez à l'aventure sur le sentier de raquettes. Et après cette journée bien remplie, réchauffez-vous autour d'un bon repas dans le restaurant convivial où ambiance chaleureuse vous attend. La pourvoirie Auberge La Barrière à Saint-Émilie, c'est aussi votre relais motoneige et grande nouveauté cette année, relais pour quad. La pourvoirie Auberge La Barrière, une belle façon de vivre l'hiver. Et pour être certain de ne rien manquer, suivez La Barrière sur Facebook.
Les matchs du Tricolore, c'est à l'Échappée que ça se passe. Chaque soir de match, choisis ton joueur favori et s'il marque un but, tu mérites un shot gratuit. Lors d'un match en semaine, on prolonge notre 4 à 7 jusqu'à 20 heures. Les jeudis, c'est la soirée hockey avec DJ, tirage d'un chandail du CH présenté par la BAT et pique assiette gourmand. Rate pas ça. Réservation fortement suggérée au 450-394-1658.
J'ai un cappuccino pour Caroline.
Oui, c'est moi, Caroline. Hein? Vous l'avez écrit correct? 1K, 2L, 2N. Malade. Je vais te prendre un 649.
Prochain tirage, 32 millions.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
À CFNJ, Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Ouais, salut, bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
La députée Marois Risky ne réintégrera pas l'équipe libérale. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui en point de presse le nouveau chef Charles Milliard.
Oui, bon, je pense que c'était un peu incontournable. D'abord, il y a au sein du caucus du Parti libéral des gens qui lui en veulent encore d'avoir déclenché toute cette tempête, là. Et donc, M. Milliard a utilisé le bon argument, c'est-à-dire il y a des procédures qui sont en cours. Tant qu'il n'y aura pas toute l'information, bien, il ne pourra pas la réintégrer. Probablement que ces procédures-là vont se terminer après les prochaines élections. Mmh. Donc, il n'y aura pas de décision à prendre.
Et on sait de toute façon que Marois Risky ne se représentera pas aux prochaines élections. Son conjoint, par contre, Greg Kelly, là, demeure en fonction parmi l'équipe libérale.
Oui, et puis M. Milliard a voulu inciter lors de son point de presse pour dire que non seulement il restait, mais il lui donnait un dossier important, celui de l'énergie. Alors, je pense qu'il veut acheter la paix dans le couple, si on veut, en montrant que c'est pas personnel. Mais je pense effectivement qu'il n'y avait pas tellement le choix. Il n'a pas été mêlé à ces histoires-là. Et puis, dans le caucus, comme je le mentionnais, il y a beaucoup de députés qui en veulent un peu à Marois Risky pour avoir déclenché cette tempête-là.
Beaucoup d'actions sur la scène politique aujourd'hui, Pierre, c'est pas les sujets qui manquent. Un troisième conservateur, Matt Genereau, qui passe chez les libéraux de Mark Carney. C'est un député de l'Alberta.
Oui, c'est un député. Il a été élu en 2015. C'est quand même un député qui a été élu 4 fois depuis 2015. Donc, il est quand même relativement bien implanté dans son comté. C'est un comté d'Edmonton, Edmonton River Bend. Et puis, j'ai regardé un peu les résultats de la dernière élection. C'était assez serré. Les libéraux étaient pas loin derrière, là. Mm-hmm. Pour l'Alberta, là, c'est peut-être 45 à 50, là, quelque chose du genre, mais c'est pas insurmontable, là. Pour lui, je pense qu'il a fait le calcul qu'il était plus à l'aise avec McCarney qu'avec Poilievre. Et qu'il y avait des chances de garder son siège. Évidemment, au départ, il devait partir. Il s'est retiré du caucus, puis il devait partir au printemps. Mm. Mais là, clairement, il va rester, puis il va se présenter à la prochaine élection.
Bon, on voit qu'entre lui et Pierre Poilievre, là, ça allait pas très, très fort. Et puis, pour les libéraux de Mark Carney, ben, ça compense pour la perte de Tatiana Auguste dans Terrebonne, là.
Oui, mais il leur manque toujours 3 sièges pour avoir la majorité. Oui. Il va y avoir des élections partielles s'il n'y a pas d'élection générale, et puis ils auront la chance d'aller chercher ces 3 sièges-là qui leur permettraient d'avoir la majorité qui est 172 sièges. L'opposition aurait 171 sièges, et donc il y aurait un gouvernement majoritaire. C'est possible, mais il semble, en tout cas, les indications qu'on a, c'est que M. Carney ne veut pas déclencher d'élection au printemps. Il considère qu'il y a trop de choses, trop de pain sur la planche. Alors, ces élections partielles-là risquent d'avoir lieu, là, probablement au début de l'automne prochain.
Grosse rumeur maintenant qui persiste depuis 24 heures. Le député du NPD, Alexandre Boulris, qui pourrait quitter le NPD pour se joindre à Québec solidaire.
Oui, ça, je l'ai même entendu parler en fin de semaine. C'est assez drôle parce que moi, je suis pas, intimement lié à ces gens-là, mais des gens m'en ont parlé parce que, bon, Alexandre Boulris, c'est au fédéral. Moi, j'ai été au fédéral. Mmh. Et on me disait qu'il serait intéressé à aller se présenter pour le Québec solidaire d'Angoin, qui est actuellement détenu par Manon Massé.
Attends un petit peu, là. On mêle les cartes. Manon Massé, c'est Sainte-Marie-Saint-Jacques.
C'est Philippe Chiappe, t'as raison.
Oui, ça, là, on est dans la circonscription qui était détenue par Gabriel Nadeau-Dubois. On sait que Gabriel Nadeau-Dubois ne se représente pas, c'est ça.
Oui, ouais. Ben, là, c'est parce que c'est tout dans le même coin. On finit par se perdre un peu. Et puis, même le Québec solidaire a une instance en fin de semaine qui devrait changer les règles parce que les règles qui avaient été adoptées à leur dernier congrès, là, leur dernier conseil national, c'était que les prochains candidats devaient être nécessairement des femmes ou des gens non-binaires. Mm. Donc, ils se définissent ni comme homme ni comme femme. Ouais. Mais Alexandre Boulris, semble-t-il, ne correspond pas à cette définition.
Pas vraiment, non. Il y a une barbe
en plus. On va changer pour lui. Et ce qui est très drôle, c'est que...
Mais ça risque de pas faire l'affaire de tout le monde à Québec solidaire. Là, j'ai l'impression qu'on va assister à du déchirage de chemise, là.
Oh, ça, c'est sûr, parce que en même temps, ils ont fait un amendement qui est général. T'sais, ils disent dans ce cas-ci, puis il nomme pas jamais Alexandre Boulris, mais c'est une personne de gauche, connue, etc. Et les instances de Québec solidaire disent que c'est une exception qui n'aura lieu que pour Alexandre Boulris. Oui, alors, c'est un peu, je dirais, assez particulier. C'est vraiment très Québec solidaire.
Mais c'est toujours la même chose avec Québec solidaire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hein?
Exactement. Alors, je crois que c'est pas mal cané qu'Alexandre Boulris va se présenter pour Québec solidaire dans Gouin. Et c'est un comté qui peut gagner, mais c'est pas non plus... je dirais automatique parce que le PQ l'a eu jusqu'en 2014, je pense. Alors, ça va être une belle lutte à suivre.
Bon, parlant du PQ, on apprend aujourd'hui que l'ex-journaliste radio-canadien Philippe Schnob va se porter candidat pour le PQ dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Ça, c'est la circonscription qui est détenue présentement là, par Manon Massé.
Oui, alors c'est elle, la circonscription détenue par Manon Massé. Elle l'a depuis 2014, ça, je suis sûr.
Oui.
Donc, c'est une circonscription que le PQ avait historiquement... depuis 76, je pense. Mm-hmm. Et donc c'est quelque chose, c'est un comté qui n'est pas garanti, loin de là. Il semblerait que c'est le président de Québec solidaire qui va se présenter dans la circonscription. Sauf que c'est un comté qui est gagnable. Ce qui m'a fait bien rire, par contre, c'est que Manon Massé a dit qu'elle ne savait pas que M. Schnob avait des accointances souverainistes.
Bon, faut rappeler que Philippe Schnob était journaliste à Radio-Canada. Il a flirté avec la politique municipale en se présentant dans l'équipe de Denis Coderre. A perdu ses élections, mais c'est un proche de Denis Coderre. Denis Coderre, c'est un fédéraliste.
Oui, c'est lui qui l'avait nommé à la Société des transports de Montréal au président du conseil d'administration.
Oui.
Ce qui m'a fait rire, c'est que Manon Massé dit « Je savais pas qu'il y avait des accointances souverainistes », alors qu'Alexandre Boulris a dit qu'il n'était pas souverainiste.
Oui.
Mais lui, il va se présenter pour Québec solidaire, qui est un parti souverainiste, théoriquement.
Hey, on est mêlés, là, Pierre.
On est dans les contradictions les plus immenses.
Bon, pour en revenir à Philippe Schnob, c'est une candidature de calibre, selon toi?
Ah oui, je pense que oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, surtout, je pense, en question de transport, mobilité, tout ça. Ça va apporter beaucoup, je pense, au Parti québécois. J'ai appris aussi qu'il est en train d'écrire une biographie sur Gérald Larose, l'ancien président de la CSN. Ça m'a étonné, mais... ça va être sûrement très intéressant. Il a dit qu'il allait la terminer avant la prochaine élection.
Bon, alors donc, il a déjà vécu une campagne électorale sur la scène municipale, l'a perdu. Cette fois-ci, ce sera peut-être la bonne pour lui. Ça reste à voir parce que...
C'est possible, comme je mentionne, parce que c'est une circonscription qui a été péquiste pendant très longtemps.
Et si on regarde les projections de QC125 pour Sainte-Marie-Saint-Jacques, là, c'est serré, très, très, très serré. Là, on enlève Manon Massé, qui avait un fort capital de sympathie dans cette circonscription-là, faut le dire. Elle était bien aimé de ses concitoyens, ben là, se retrouver avec une candidature vedette comme celle de Philippe Schnob, ça peut peut-être donner une chance au PQ, ouais.
Oui, c'est comme dans Gouin aussi, là où Alexandre Boulris se présentait, le PQ et les libéraux ont des possibilités de gagner. Et il semblerait que si Alexandre Boulris veut quitter, c'est qu'il sait que les libéraux vont gagner, les libéraux fédéraux vont gagner la prochaine élection fédérale.
Mm. Ben merci Pierre, on a passé à travers quelle journée politique.
Oui, beaucoup de choses, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir d'ici la prochaine l'élection d'octobre.
Ah ouais, c'est sûr. Salut Pierre, bonne fin de journée.
Bonne fin de journée à toi aussi. Bye.
Je remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Pierre Jubinville, Michel Ardouin ainsi que Pierre Paquette, ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. Nicolas Bellemare s'en vient pour vous présenter le 5 à 7 trad auparavant. La vie dans la Naudière avec Hugo Valiquette et nous, on sera là demain, jeudi, 16h pour une autre édition de la Naudière PM. Salut!